RCF.
Vous écoutez RCF France Ardennes, le 18-19 local, présenté par Alexis Claudretz.
C'est toujours bien, Fabrice, de faire un petit rappel, effectivement, 18-19 local avec nos amis de Reims et des Ardennes, notamment ce soir, on est ensemble jusqu'à 19h, comme lorsque c'est le magazine régional. Et puis, on pense aussi à nos amis qui nous écoutent peut-être en région via le DAB+. On va essayer de vous partager les actualités qui vous intéressent, mais il n'y a pas de raison. Au programme, ce soir, un menu, comme dirait Jean-Pierre Benoît, chargé, mais copieux, où l'on va se régaler. Mais avant cela, on va faire les présentations avec Alice Dark, notre stagiaire à la rédaction. Alice, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
En première au lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle et en cette période où les vacances scolaires commencent, toi tu fais un stage, ce n'est pas banal. Qu'est-ce que tu viens faire ici, surtout à ce moment-là de l'année, Alice?
Eh ben, j'ai changé de filière, ce qui fait que j'ai des stages à rattraper pour passer mon bac et je les rattrape cette semaine.
Et on a le plaisir de t'accueillir donc au sein de la rédaction. On te retrouvera en fin d'émission, notamment pour présenter la météo. Dans quelques instants, on regardera sur le monde avec Jean-François Boulanger. On ira faire un tour ce soir du côté du Soudan. Un maire qui nous parle, bien évidemment. On ne coupe pas à la tradition et aux bonnes habitudes avec Bruno Rouleau, qui est l'édile d'Aussimon dans la Marne. Le père Claude Collignon sera également avec nous pour nous présenter deux conférences sur le père Louis Lauchet. Les rendez-vous, c'est les 25 et 26 avril à Charleville-Mézières et à Reims. Et puis, en deuxième partie d'émission, entre 18h30 et 19h, on fera un zoom sur la mission qui a été vécue dans l'espace missionnaire Montagne Val d'Or du diocèse de Reims et des Ardennes. On aura plusieurs témoins qui reviendront sur les temps forts de cette mission, notamment Marie-Claude Duvet, Monique Flamand, Bruno Rigobert et le père Jean-Pierre Laurent seront avec nous pour nous présenter ces différents temps forts. 18h12, on commence par regarder sur le monde ce lundi. Regard sur le monde avec Jean-François Boulanger, avec nous par téléphone. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Et on va partir aujourd'hui du côté du Soudan. Il y a quelques jours, Paris a accueilli, c'était le 15 avril dernier, une conférence humanitaire internationale pour le Soudan et les pays voisins. Alors que notre attention est depuis plusieurs mois accaparée par les conflits notamment de l'Ukraine et de Gaza, le Soudan vit depuis un an dans une crise humanitaire très grave. Nous allons donc nous pencher sur le cas de ce pays qui vit dans l'instabilité depuis longtemps. C'est votre souhait aujourd'hui, Jean-François?
Oui, parce qu'effectivement, l'attention a été apportée sur ce pays récemment, mais en fait, le Soudan vit en fait depuis très longtemps dans l'instabilité. Le Soudan, donc, vit en fait dans des frontières qui sont assez largement héritées de l'époque coloniale, tout au moins jusqu'en 2011, on va l'expliquer. C'est un pays largement aride, à 35%, dont le nord, à l'époque, jusqu'en 2011, était peuplé d'Arabes, de religion musulmane, tandis que ce qui en constituait alors le sud est occupé par des noirs animistes ou chrétiens. Et donc, il s'appelle à l'époque coloniale Soudan anglo-égyptien. Pourquoi? Parce que la totalité du pays avait été conquis par l'Égypte au début du 19e siècle, sous la dynastie de Mehmet Ali. Et en 1899, sous la pression britannique, les Anglais étant en train de prendre le contrôle de l'Égypte, l'Égypte avait accepté de partager sa souveraineté sur le Soudan avec le Royaume-Uni dans le cadre d'un condominium. Et c'est en 1956 que le Soudan est déclaré État indépendant. Entre 1969 et 1985, il est dirigé à la suite d'un coup d'État militaire par un dénommé Noumeïri, dont les dernières années au pouvoir sont marquées par la restauration du droit musulman, la charia, qui avait été abandonnée pendant la période coloniale. Et c'est effectivement, de ce fait, une période assez décisive pour le destin du Soudan, qui entre alors dans une guerre civile durable.
Jean-François Boulanger, pourquoi cette guerre civile éclate-t-elle?
Parce que l'islamisation de l'État soudanais, opérée par Noumeïri, va exacerber le clivage entre le nord et le sud. Les différences de langue, de religion, débouchent sur une guerre civile entre les forces gouvernementales, influencées par le Front National Islamique, et les rebelles du sud, animistes et chrétiens pour la plupart, dont la faction la plus influente est l'APLS, l'Armée Populaire de Libération du Soudan. Cette guerre très longue va aboutir en 2011 à l'indépendance du Soudan du Sud. Et la guerre n'en subsiste pas moins dans le sud-ouest du pays, qui reste donc sous la domination de Khartoum, le Darfour, qui est au nord du Tchad, et où il y a des musulmans, mais dont certains sont arabes et d'autres non-arabes, d'où le différent. Par ailleurs, l'islamisation du régime avait survécu à Noumeïri, puisque entre 1989 et 2019, une dictature militaire avait dirigé le Soudan sous la direction d'Omar el-Bashir en multipliant les violations aux droits de l'homme.
Pour vulgariser un petit peu ce que vous nous dites, Jean-François Boulanger, et être sûr que l'on ait bien compris, le Soudan est un pays islamiste qui a longtemps vécu sous dictature militaire.
Absolument. Et il a aussi la particularité d'avoir connu un parti communiste fort, ce qui est très rare dans les pays musulmans. Et ce parti a été la victime régulière de la répression militaire. Il ne joue donc plus aujourd'hui qu'un rôle marginal. Mais il n'est pas étranger à un vaste mouvement de protestation contre le régime qui s'était formé dans les villes de l'extrême nord, en particulier autour d'Atbara, une agglomération ouvrière qui était le fief du syndicalisme soudanais, où le PC jouait un certain rôle. Les manifestants avaient réclamé initialement de meilleures conditions de vie, puisque plus de 20 millions de personnes vivent au Soudan sous le seuil de pauvreté, puis, lorsque la répression s'accentue, la démission du président. Et c'est ainsi que la période de dictature prend fin en 2019 lorsque Omar el-Béchir est destitué par l'armée et remplacé par un conseil militaire de transition composé aussi de civils, donc le 11 avril 2019. Et le 21 août, ce conseil militaire de transition cède la place à un conseil de souveraineté où il continue à jouer un rôle important.
Mais si vous me permettez, nous ne sommes pas aujourd'hui dans une période démocratique au Soudan, Jean-François.
Ah oui, absolument, parce qu'en avril 2023, alors qu'un plan de transition vers un régime civil avait été discuté sous l'égide de la communauté internationale, des luttes de pouvoir se développent entre le commandant de l'armée et dirigeant national de facto, Al-Bourhan, et son adjoint, Daglo, dit Emeti, qui est le chef des forces de soutien rapide, FSR, qui, à partir du 15 avril, lance des attaques contre des sites gouvernementaux dans plusieurs grandes villes, notamment à Khartoum.
Pour faire les présentations, Jean-François Boulanger, qui est Emeti et que sont ces FSR qui ont déclenché la guerre civile, donc ?
Alors, les FSR sont une force paramilitaire qui a été créée à la mi-2013. Mais en fait, sous différents noms, elles sont issues des milices Janjaweed, constituées d'Arabes du Darfour, qui depuis 2003 avait pris part à la guerre civile dans cette région en opérant notamment des massacres contre les populations non arabes de la région. Et en janvier 2014, un amendement à la Constitution avait conféré au FSR le statut de, entre guillemets, force régulière. Quant à Emeti, c'est un ancien chef Janjaweed, donc de ces fameuses milices, qui donc a intégré avec ses hommes les FSR. Les FSR qui comptaient en 2014 entre 5000 et 6000 soldats et entre 600 et 750 véhicules et donc qui étaient mieux équipés que la plupart des forces paramilitaires. Aujourd'hui d'ailleurs ils sont beaucoup plus nombreux que cela. Ajoutons à cela que les FSR avaient été également intervenus dans la guerre civile qui sévit en Libye donc depuis la chute de Kadhafi en soutien du général Haftar.
À quel moment les FSR et Emeti entrent-ils en rébellion ?
Eh bien justement, quand l'armée veut les intégrer en son sein, c'est le moment où on commence à parler de forces régulières à leur sujet, dans le but de les contrôler. Et Emeti, qui ne veut pas perdre ce levier qui lui permet d'agir, d'avoir du pouvoir et de s'enrichir, soit dit entre parenthèses, donc va décider de refuser cela et s'attaque à l'armée à Khartoum, et aussi dans le Darfour, qui constitue son fief à partir du 15 avril 2023. La situation de cette guerre civile est encore plus confuse du fait que le principal mouvement rebelle du Darfour continuait pendant ce temps-là à se battre contre la domination de Khartoum, et que dans la région du Nil Bleu, c'est-à-dire à l'extrémité sud du Soudan, près du nouvel État du Soudan Sud, un mouvement populaire du Soudan Nord, de libération du Soudan Nord, qui avait combattu auparavant aux côtés de la PLS, le mouvement des chrétiens du Sud, donc continue à agir. Donc une situation complexe où se heurtent les ambitions de deux généraux, mais avec lequel les anciens conflits régionaux, jamais vraiment éteints, interfèrent.
Ce conflit concerne-t-il uniquement ces acteurs locaux soudanais ?
Non, parce que chacun des deux principaux protagonistes de cette guerre civile va avoir des soutiens extérieurs. Les FSR et donc leur chef, Emeti, sont soutenus par le Libyen Haftar, qu'ils avaient eux-mêmes aidé, par la Russie. Le groupe Wagner interviendrait dans la région et se payerait en quelque sorte avec les gisements d'or locaux, par les Émirats Arabes Unis et le Tchad, au nord, par lequel arrivent les armes fournies par les Émirats Arabes. De l'autre côté, Al-Bourhan et le Conseil de souveraineté de transition est soutenu par l'Égypte, l'ancien protecteur, les États-Unis, l'Ukraine, qui intervient là par biais de forces spéciales pour lutter contre les Russes, l'Iran, qui lui aurait fourni des drones de combat, l'Arabie Saoudite et la Turquie, qui par ailleurs luttent contre Haftar en Libye. Donc vous voyez, tout cela est très complexe. La moitié de la population soudanaise a besoin d'une aide humanitaire d'urgence. L'ONU alerte sur un risque de famine réel. Il était donc temps de faire quelque chose.
Merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairés et on vous dit à très bientôt.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h21 sur RCF Reims-Ardennes, et même si on est en local uniquement cette semaine, on garde quelques-uns de nos repères du magazine régional, avec tout de suite un maire qui nous parle. Bruno Rouleau, maire d'Haussimont, est avec Jean-Pierre.
Bruno Rouleau, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'aller à la découverte de votre commune, Haussimont. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Combien y a-t-il d'habitants? Où est-elle située? Enfin voilà, qu'est-ce qu'elle est votre commune?
Haussimont est une commune rurale, en plein milieu de la Champagne crayeuse. J'ai l'habitude de dire, selon la Dotard, dans la diagonale du vide, au milieu de nulle part, mais au centre de tout. Donc c'est une commune qui est près de l'axe A26 et l'RN4, c'est-à-dire les circulations est-ouest et nord-sud de l'Europe. C'est une commune de 144 habitants, qui a une spécialité, qui a un comité d'embellissement qui s'appelle Oasis des Plaines de Champagne et qui est très spécialisé dans l'environnement. C'est-à-dire que nous sommes un village 4 fleurs, Grand Prix National, dit-on aussi existait, Fleur d'Or. On a eu le Prix National de l'Arbre, ce qui est assez rare, encore plus que 4 fleurs. On a également un label 4 handicaps pour un jardin sensoriel. C'est une commune également qui a de nombreux jardins à thème, de mémoire avec le bois pédagogique, il y a une douzaine de jardins à thème, un petit jardin sec, un jardin humide, un jardin de la vie, un jardin sensoriel, un parc des latitudes, un labyrinthe des cépages, un jardin de l'Europe, une promenade de Champagne, un verger participatif. Donc il y a une douzaine de jardins à thème, c'est-à-dire un jardin pour 12 habitants.
Mais attendez, vous allez faire des envieux, vous avez des gens qui vont nous appeler, qui vont dire, bah, si c'est un village qui est véritablement un village jardin, on y va tout de suite. C'est, ça doit être agréable quand même pour votre commune d'avoir tout ça.
Ah ben, on reçoit beaucoup de visiteurs, enfin, beaucoup de camping-cars, c'est plus informel, c'est le bouche-à-oreille, on n'a rien de spécialisé, mais il y a des endroits où les gens savent, on a des toilettes extérieures, on a l'eau qui est à disposition, et on a beaucoup d'étrangers qui s'arrêtent, quand ils passent sur la RN4 pour aller dans l'ouest de la France, on a aussi des gens qui s'arrêtent quand ils font nord-sud, souvent des Hollandais, des Allemands, des Anglais, et puis beaucoup de gens qui serpentent la France en camping-car, retraités souvent, donc qui passent à partir du moment où ils regardent sur Internet, ils ont tendance à passer plutôt une journée, voire plus, que de s'arrêter juste une heure. Enfin, il y a tous les cas de figure.
Alors... voilà. Ça doit être apprécié par les habitants, ou en tout cas, s'il y a quand même quelques commerces, ils peuvent apprécier et puis visiter le village, en tout cas.
Il n'y a pas de commerce. Vous savez qu'aujourd'hui, 144 habitants.
Oh oui, c'est vrai.
Même 500 habitants, on fait plus vivre des commerces.
Bah oui.
Vous savez que le commerce aujourd'hui, ça se passe par Internet de plus en plus pour le milieu rural. Après, quand on est en ville, c'est d'autres choses. Et chez nous, les gens se déplacent voilà, pour faire leurs courses, vers faire Champenoise, Mailly-le-Camp qui est qu'à 7-8 km, et puis Châlons-en-Champagne, dans la mesure où notre commune fait partie de la communauté de communes de l'agglo de Châlons-en-Champagne.
Vous avez toujours eu cette fibre pour être maire? Vous étiez déjà adjoint peut-être? Vous étiez dans le conseil municipal avant? Depuis oui. Combien de temps vous êtes maire déjà?
2001.
Ah, ça fait déjà quand même quelques années, mais vous avez toujours eu cette fibre associative, aussi peut-être d'entreprise, parce que professionnellement, vous, j'ai l'impression que vous vous occupez aussi d'une entreprise.
J'ai une entreprise agricole, je vais pas tarder à prendre ma retraite d'ailleurs, mais j'ai la chance d'avoir deux associés, ce qui est beaucoup plus facile pour pouvoir avoir du temps pour tous ces engagements politiques, on dirait, au sens propre du terme. Moi, je suis arrivé par hasard, c'est Bruno Bourbrock, qui était député maire de Challans, qui avait la liste, vous savez, dans les élections régionales, et qui m'avait mis dans sa liste alors que j'étais pas éligible. Puis je me suis un peu engagé, et quand je suis revenu à Haussimont, je suis né à Haussimont, je suis revenu en 92, quand j'ai changé un peu de travail, et je me suis présenté, j'ai été premier adjoint pendant un mandat, avant de devenir maire.
Alors aujourd'hui, bon, on sent bien que les jardins, les fleurs, etc., c'est d'ailleurs un secteur où vous êtes primé. Est-ce qu'il y a des projets en cours à Haussimont, ou des projets pour les années qui viennent?
On a un village, Capignan-sur-Rue, et qui n'avait pas de dent creuse. Donc, depuis 20 ans, on a eu très peu de construction. Pratiquement pas, une seule maison, parce qu'il y avait un terrain vide. Aujourd'hui, on a un programme d'habitat un peu futuriste, avec du logement, des maisons locatives, qui devraient démarrer dans la conception l'année prochaine, avec de l'accession, et aussi avec un petit R+1, soit pour les jeunes couples, soit pour les célibataires, soit pour les personnes âgées, qui sera justement adossé au jardin d'ailleurs. Tout va être adossé au jardin, ce qui est parfois sympathique. Alors dans notre commune, il y a une spécificité, c'est qu'on a une grosse partie des gens qui travaillent ou à la féculerie. Vous savez, cette féculerie qui hélas va fermer. Alors, on a une grosse réflexion sur le devenir de ce site. Et puis qui travaillent aussi sur l'aéroport, ou dans le milieu agricole.
Donc, il faut s'attendre à un développement, finalement, parce que tout ça, ça va amener du monde, ça va amener une population.
Oui, c'est pour ça qu'on a anticipé. On a anticipé par rapport au cadre de vie, on a anticipé par rapport à l'environnement, on a anticipé par rapport au patrimoine. On a restauré l'église, on a restauré une petite maison de la gare, on a restauré la mairie, on a beaucoup de salles pour les associations. On a un complexe sportif qui a été créé par la petite communauté de l'aéroport, des 10 petites communes qui étaient autour de l'aéroport, et qui a été repris par l'agglomération de Challans-Champagne, où il y a énormément d'activités à la fois sportives et culturelles, et qui accueille les écoles, les clubs sportifs, tous les centres aérés de la communauté d'Aglo, mais pas que, de toute la Marne, et parfois d'un peu plus loin, de l'Aube, qui est limitrophe. Et on a des clubs de tennis, clubs de football, et surtout l'escalade, tir à l'arc, voilà.
Mais vous avez beaucoup de choses, monsieur le maire. Vous avez beaucoup de choses. Alors, le temps passe très vite, ça va être bientôt le moment de nous séparer. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous retrouvera pas sur notre antenne, bien entendu. La question, la dernière qu'on pose toujours à chaque maire, en tout cas pendant cette saison, elle est toujours la même. Est-ce que vous êtes un maire heureux? Moi, j'ai l'impression que oui, mais vous allez nous le dire.
Alors, je vais vous répondre avec deux volets. Il y a le volet où on fait partie de la communauté d'agglomération de Challans-Champagne, qui est un volet extrêmement intéressant, sauf que parfois, on y met trop de compétences. Ça, c'est la réforme des collectivités. On a parfois trop de compétences. Il y a des compétences obligatoires qui sont les ordures ménagères, l'économique ou assainissement. Et il y a parfois des choses où on va un petit peu trop loin. Bon, c'est pas forcément notre cas d'aglo, c'est plus le cas des fois des communautés urbaines. Mais voilà, il y a une réflexion par rapport à ça où les maires du milieu rural se sentent parfois un peu éloignés de toutes ces affaires-là. Ça, c'est le problème des maires des petites communes. Par contre, il y a toujours une vie de proximité qu'il faut essayer de ne pas perdre.
Puis vous connaissez tout le monde à Haussimont, pour terminer.
Oui, on connaît oui. Tout le monde.
Et puis le maire, c'est celui qu'on rencontre, c'est celui qu'on voit. Mais écoutez, ce que je vous propose, monsieur Bruno Rouleau, c'est qu'on a tellement de choses à dire, c'est qu'il faudra revenir sur notre antenne, on en reparlera. On vous remercie pour aujourd'hui, parce que le temps nous est compté, mais en tout cas, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions et nous avoir fait découvrir ce village plein de fleurs, plein de jardins et plein d'espérance, celui d'Haussimont. Merci Bruno Rouleau d'avoir été avec nous. À très bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci, et comme vous voulez. Au revoir, monsieur Benoît.
Merci à tous les deux. Et c'est vrai que ces balades au fil des villages, des communes que l'on rencontre dans ce magazine, dans le magazine régional et dans le magazine local, là, pendant cette période de vacances, ça donne aussi envie d'aller à la découverte des communes près de chez nous et pourquoi pas d'aller profiter du soleil lorsqu'il y en a pour se balader. Mais ça y est, il est en train de percer. Les rayons du soleil sont en train d'arriver. On l'entendra tout à l'heure dans la météo d'Alice qui est avec nous.
Le 18-19 sur RCF.
Toujours avec vous, Jean-Pierre, deux conférences à nous présenter, désormais avec le père Claude Collignon, qui est votre invité, Jean-Pierre, donc.
Avec nous aujourd'hui, le père Claude Collignon. Claude Collignon, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous parce que vous nous annoncez des conférences à propos du père Louis Lochet, bien connu dans notre diocèse. Deux conférences qui ont lieu le jeudi 25 avril à 20h à la maison Jules Bierry et le lendemain, le vendredi 26 avril à 20h à la maison Notre-Dame à Reims, rue Guillaume de Machaut. Alors, Claude Collignon, vous êtes un habitué, quand vous venez nous parler, vous parlez souvent du père Louis Lochet. Le père Louis Lochet vous a impressionné, vous l'avez connu de près lorsqu'il était à Reims. Rappelez-nous très très rapidement son itinéraire. C'est un pur produit rémois.
Alors, le père Lochet est d'une famille rémoise. Il est né à côté de la cathédrale, la famille Lochet. Il a vécu, on va dire, jusqu'à 60 ans pratiquement à Reims. Ce qui est quand même pas mal.
C'était pratiquement tout son ministère.
Une grande partie de son ministère, puisqu'après, il est parti en Afrique.
Il est parti en Afrique.
Au Burundi. Mais dans son ministère, il y a eu le fait qu'il a été professeur au séminaire, professeur de théologie. Ensuite, il a été curé à Paroisse Saint-Louis. Ensuite, il a été mis en disposition de tous les groupes qui avaient besoin d'un approfondissement. Alors, il a fait ça dans le diocèse, mais il a fait ça partout, y compris non seulement en France, mais en Asie, en Afrique. Je crois qu'il n'y a qu'aux États-Unis qu'il n'est jamais allé.
Et puis il est revenu dans le sud de la France, à Châteauneuf de Galors, pour un foyer de charité. Il est décédé en 2002, il y a une vingtaine d'années. Vous avez proposé des intervenants un peu différents. Le père Arnaud Duic, le père Jean-Paul Drez, et puis vous-même. Et puis bien sûr, celle qu'on connaît bien, qu'on invite régulièrement, Monique Mazzoleni, qui a été proche du père Louis Lochet et qui va intervenir. Chacun va prendre un angle particulier de son itinéraire?
Alors, c'est ce qu'on veut faire. Jusqu'ici, on insistait beaucoup sur la biographie du père Lochet. On l'a dans la tête, mais on va essayer d'aller un peu plus loin dans sa pensée. Alors, comment on va faire? Il y a Arnaud Duic, donc, que nous connaissons, hein, qui est un prêtre de, je ne sais pas très bien, mais 35-36 ans. Il est en études à Paris pour continuer sa théologie. Et il a pris justement comme sujet la théologie de l'Église dans le père Lochet. C'est assez intéressant qu'un universitaire approfondisse cela.
Ça veut dire aussi que cette pensée du père Lochet, elle n'est pas datée par une époque conciliaire, mais elle a, dans l'actualité d'aujourd'hui et même de demain, une réalité intéressante qui permet d'approfondir à la fois la foi, les mystères de l'Église, etc. etc. Donc c'est d'actualité, c'est pas, on ne regarde pas dans le rétroviseur.
Alors, c'est assez intéressant quand on lit le père Lochet. D'une part, il est quand même relativement typé par rapport à l'époque dans laquelle il a vécu. Il utilise des termes qu'on n'utiliserait plus, bon, etc. Il est marqué, entre autres, par exemple, par la présence du marxisme. Nous, on l'a un peu oublié. Hein. Bon, ça, c'est autre chose. Mais par contre, il a approfondi, et d'une façon adaptée à tous ses publics, il a approfondi ce qu'on appelle le mystère de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? À son époque, l'Église, c'était une institution. Bon, elle avait une possibilité d'avoir de la puissance. On lui a contesté. Bon, on a découvert progressivement, grâce à d'autres que le père Lochet, bien sûr, que l'Église, c'était un, je vais utiliser les mots du père Lochet, un mystère d'amour, auquel mystère on participe, nous autres, baptisés.
Et donc, cette pensée, elle va se développer dans la conférence avec le père Arnaud Duic, mais aussi avec le père Jean-Paul Drez, qui, lui, a un regard un petit peu différent.
Alors, Jean-Paul Drez a été très marqué par sa lecture d'un livre du père Lochet qui s'appelle « L'Évangile de la liberté ». C'est déjà un livre un peu ancien, qui n'est pas réédité, mais on va essayer de le faire, de telle façon qu'il nous découvre, dans ce livre-là, le père Lochet, que le Christ nous libère à tous les niveaux, au niveau moral, au niveau institutionnel, même au niveau spirituel. Et le père Jean-Paul Drèze veut nous expliquer, à travers la pensée du père Locher, que l'homme chrétien, c'est un homme libre, qui n'est pas soumis à un certain nombre de lois, etc., mais qu'il est renvoyé à sa relation à Dieu et au Christ.
Alors avant de vous retrouver vous-même, puisque vous intervenez, on terminera avec vous, père Claude Collignon, il y a la présence de Monique Mazzoleni, qui a été proche du père Locher, qui l'a vu en particulier en Afrique, qui l'a connue aussi à Châteauneuf-de-Galore. Elle va intervenir dans quel sens? Elle a déjà écrit beaucoup sur le père Locher.
Alors, d'une part, elle a vécu 11 ans au Burundi, dans l'animation du foyer de charité de là-bas. Donc, elle a bien connu le père Locher. C'est une historienne. Elle s'est efforcée de trouver toutes les sources qu'on peut avoir sur le père Locher, tous ses écrits, et Dieu sait s'il en a, on n'a pas tout découvert. Ses livres, je crois qu'il a écrit 12 livres, et puis il y a tous les articles qu'il a donnés dans tous les sens. Alors elle va intervenir en approfondissant encore un peu plus le sens de la vie du père Locher dans sa relation personnelle à son baptême et à son ordination. Et c'est ce qu'elle réfléchit sous l'angle « le père Locher a vécu la croix ».
Ça, les racines de la spiritualité du père Locher, vécu la croix parce qu'il a eu des difficultés médicales.
À la fin de sa vie, il a vécu 7 ans complètement allongé dans son lit, il ne pouvait plus bouger.
Donc c'est l'occasion d'en savoir un peu plus. Et puis avec vous, père Claude Collignon, vous allez intervenir dans quelle direction?
Alors, nous avons sorti un livre du père Locher qui contient deux petits fascicules qu'il a écrits en 1950, donc c'est ancien, et qui sont comme le résumé à l'avance de sa pensée et de son action. Alors, on s'est dit que ça pouvait avoir un impact sur notre réflexion, d'autant que ce qu'il dit dans ces deux fascicules, eh bien, on le retrouve constamment à toutes les étapes de sa réflexion et de sa vie.
Le titre « Rien n'est perdu pour Dieu », voilà, avec un sous-titre « Une espérance pour l'Église du XXIe siècle » aux éditions Salvator, Louis Locher, avec une préface de Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Alors, il faut rappeler, donc, Claude Collignon, que celles et ceux qui viennent, ils vont approfondir tout ça. Parce que nous, en 9 minutes, sur RCF, on ne fait donner que des grandes lignes. On a compris que c'était un théologien enraciné dans une histoire, celle du diocèse de Reims, et qui approfondissait les mystères de l'Église, mystères d'amour de l'Église. Oui. Bon, alors là, il faut se creuser un petit peu la tête. Mais cet effort, finalement, il est compliqué, mais on a l'impression quand même qu'il a une forme de simplicité. Que Louis Locher, il est compliqué dans sa théologie, peut-être, mais c'est accessible, c'est simple.
Alors c'est accessible parce qu'il sait se mettre à la portée de son public. Ça, c'est assez intéressant. Il s'exprimait avec des ouvriers, des militants, comme on disait autrefois, avec des prêtres, avec des religieux, et chacun y trouvait sa nourriture. Hier, j'étais avec une religieuse, elle me disait « Je lis tous les soirs une page du père Locher, ça me rend heureuse parce que je comprends bien ». Il faut le faire.
Merci père Collignon. On rappelle les rendez-vous le jeudi 25 avril à 20h à Charleville-Mézières à la maison Jules Bierry et le lendemain, le vendredi 26 avril à 20h à la maison Notre-Dame à Reims. Merci Claude Collignon, puis promettez-nous de revenir.
Merci Jean-Pierre, et bien une autre fois.
Au revoir.
Merci à tous les deux. Dans quelques instants, nous on part dans l'espace missionnaire Montagne Val d'Or du diocèse de Reims et des Ardennes.
Le 18-19 ans.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
18h39, on va retrouver plusieurs témoins dans la vingtaine de minutes qui nous rapprochent de 19h dans ce magazine local. Et notre première témoin est Marie-Claude Huvet, responsable du CLA, du Conseil local d'animation de la paroisse Source Vive. Marie-Claude Huvet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous aviez déjà été en direct notamment avec l'émission de Violaine de Caffarelli. On vous avait entendu dans En route pour la mission. C'était pour préparer cette mission itinérante dans votre espace missionnaire que vous connaissez bien. Et puis maintenant, vous l'avez vécu, cette mission. Hein, c'était de samedi à jeudi dernier. Si je vous demande à chaud que ce que vous avez envie d'en retenir, quels ont été les moments marquants pour vous, Marie-Claude Huvet?
Eh bien, avant tout, cette soirée du samedi 13 avril qui a été donc la messe sur la communauté, et puis le repas partagé suivi d'une veillée de louanges. Et je pense que cette soirée-là a été la soirée qui a propulsé la mission durant les 5 jours qui ont suivi.
Parce que c'est vrai que c'est vraiment le sens de la mission, de se dire que vous partagez des moments en commun avec évidemment l'équipe de la fraternité missionnaire, mais aussi avec les habitants du village et des communes qui font partie de votre espace missionnaire, Marie-Claude Duvet.
Tout à fait. Tout à fait. Et cette ça a été ouvert donc à tous ceux qui ont participé à la messe. Et puis notre équipe de missionnaires qui est venue, que l'on avait invité, les deux prêtres. Et donc ça a été vraiment un moment vraiment de partage, de louange, et ça a été vécu intensément. Et bon, les jours qui ont suivi ont été des moteurs au niveau de cette mission. C'était, voilà.
Et on en parlera certainement avec nos témoins qui arriveront juste après vous, Marie-Claude Duvet. Mais
oui.
Quel a été l'accueil que vous avez reçu de la part des habitants des communes ? Parce que c'est vrai que c'est une démarche. Maintenant, ces missions, elles sont quand même connues dans le diocèse de Reims et des Ardennes, mais comme elles se font sur des espaces missionnaires différents, à chaque fois, il y a certainement la surprise des habitants de voir des équipes comme ça qui viennent toquer à leur porte. Alors, est-ce que vous avez été, si j'ose dire, bien reçu, Marie-Claude Duvet ?
Bien, très très bien. Ça a été varié, ça a été chaleureux, et nous avons été à la rencontre des EHPAD, surtout nous dans notre secteur ressources vives à l'EHPAD de Montchenot, où là nous avons vécu un moment très intense avec les personnes âgées et l'équipe qui nous a accueillis aussi. On est allé vraiment vers les autres, et de voir cette lumière dans les yeux des personnes âgées vivant ces moments intenses, c'est pour nous quelque chose d'important, je trouve. Et bon, durant les visites au quotidien, chaque jour, il y a eu aussi les messes partagées qui ont permis à d'autres personnes de venir, celles qui n'allaient pas faire de visite, de prier intensément à l'église aussi, sans être obligé de faire ses visites. Mais voilà ce que je peux en dire par rapport à l'accueil qu'on a eu. Alors ça a été varié, mais très chaleureux, et nous avions établi un WhatsApp pour celles qui restaient à l'église prier avec le Saint-Sacrement. Nous recevions sur notre portable toutes les personnes pour qui nous devions prier. Et ça, c'est vraiment de nos jours un élément important, parce que les personnes et les familles qui étaient visitées, on avait ce lien avec l'église et les prières des personnes qui étaient restées à prier avec le Saint-Sacrement.
C'est le sens moderne de la mission en 2024 dans l'espace missionnaire Montagne Val d'Or du diocèse de Reims et des Ardennes. Merci Marie-Claude Duvet d'avoir pris ces quelques minutes en direct avec nous ce soir dans le magazine local sur RCF Reims Ardennes. On vous dit à très bientôt.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Et on continue sur RCF Reims Ardennes d'évoquer cette mission itinérante à travers l'espace missionnaire Montagne Val d'Or avec un nouveau témoin, une nouvelle témoin, Monique Flamand. Monique, bonjour.
Bonjour.
Et un petit peu comme nous le disait Marie-Claude Duvet, dans cette mission missionnaire dans l'espace missionnaire Montagne Val d'Or, vous faisiez partie justement de ces personnes qui allaient taper à la porte des habitants des différentes communes. Pour vous, selon votre expérience que vous avez vécue sur le terrain, quel a été l'accueil que vous avez reçu ?
Oui. Alors, l'accueil que nous avons reçu, bon, évidemment, on a eu des portes closes, hein. Bon, déjà, les gens, en pleine journée, en semaine, c'est normal. Et puis d'autres personnes qui nous ont dit « on n'est pas croyants, ça ne nous intéresse pas ». Bon, mais on a aussi eu des belles rencontres. Des belles rencontres qui nous ont même parfois étonnés. Donc, des croyants avec lesquels, par exemple, on a terminé donc la rencontre par une prière commune. Et puis, pour d'autres personnes, des échanges avec des non-croyants ou des croyants qui ont été beaucoup déçus dans leur enfance, donc par les chrétiens ou par les prêtres.
Et il faut bien dire que le sens de la mission, je vous interromps Monique Flamand, c'est de renouer le dialogue avec ces personnes qui peut-être à un moment donné se sont éloignées de l'église, se sont éloignées de la foi. C'est pas une démarche où vous allez forcer les gens que vous rencontrez, c'est vraiment dialoguer avec elles et leur faire comprendre quel est le sens aussi de se rapprocher de nouveau de l'église.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je vous dis, ce sont quand même des belles rencontres qu'on a eues dans l'ensemble, donc avec ses joies et ses surprises, voilà, oui.
Monique Flamand, si ces rencontres se passent aussi bien, c'est parce que derrière, il y a tout un travail logistique. Et vous allez pouvoir parler au nom de la personne qui a organisé ces rencontres, qui d'ailleurs s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous parce que, sans trahir de secret, elle est en réunion, notamment aujourd'hui à la mairie du côté de la commune où vous habitez, puisque c'est votre mari, Guy, qui avait organisé un petit peu tous les plans avec les villages, les visites, comment ça allait s'articuler. Mais lorsque l'on organise une mission, que nos auditeurs se rendent compte, c'est aussi tout un travail en amont, évidemment, qui se fait.
Voilà, tout à fait. Hein. Donc, bien sûr, il a préparé donc les plans des villages et il a réparti les circuits pour éviter que les binômes, parce que donc les visites se font en binôme, qu'il y ait donc des binômes qui fassent le même circuit et rencontrent les mêmes gens. Donc ça, c'est une première chose. Et puis aussi, il a préparé un circuit pédestre touristique pour tous, c'est-à-dire pour les petits et les grands, dans le village de Verzy. Afin de nous faire découvrir, enfin de faire découvrir à tous donc ce village et ses curiosités. Hein, d'ailleurs, il faisait du soleil ce jour-là. Alors donc tout ça, ça s'est passé dans une excellente ambiance.
On voit que c'est un travail qui est articulé minutieusement, Monique Flamand. Avant de vous laisser filer ce soir, si vous aviez un souvenir à retenir, un événement marquant de cette mission ou un sentiment peut-être à ressortir, qu'est-ce que vous retiendrez de cette mission itinérante à travers l'espace missionnaire Montagne Val d'Or ?
Eh bien, enfin, ce que je retiendrai, eh bien que vivre cette mission, ça a été une très belle et riche expérience d'église en espace missionnaire.
Eh bien, merci Monique Flamand d'avoir été notre témoin avec nous dans ce magazine régional. On continue de parler de cette mission dans quelques instants.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on continue d'aller sur le terrain avec nos témoins, savoir comment ils ont vécu cette mission à travers l'espace missionnaire Montagne Val d'Or du diocèse de Reims et des Ardennes. Bruno Rigobert, qui habite Bouzy, est en ligne avec nous. Bruno Rigobert, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
Merci d'être avec nous pour revenir sur cette mission itinérante. Vous, si vous aviez une journée particulière à vous rappeler et à raconter à nos auditeurs, c'est notamment la soirée du mercredi, Bruno Rigobert.
Oui, le mercredi 17 avril.
Alors, que s'est-il passé ?
Eh bien, il s'est passé que nous avons organisé avec tout le groupe de la mission une soirée de louanges et de prières afin de confier nos peines et nos joies au Seigneur. Et donc ça s'est passé dans l'église de Verzenay, tout le monde y était invité, de toute confession et aussi de tout village du secteur. Donc lors de cette soirée, eh bien, nous arrivions dans cette église en fin de journée avec nos peines, nos fardeaux, nos souffrances, avec parfois des âmes empreintes de doute, de tristesse. Et puis, ben, nous avions la possibilité de ressortir de cette église au bout d'une heure, une heure et demie, emplie d'espérance et de paix intérieure et ainsi que d'amour. Comment cela s'est-il passé ? Eh bien, simplement en déposant au pied de la croix du Christ crucifié nos fardeaux, c'est-à-dire en apportant une pierre, en déposant la croix, ce qui faisait une lourdeur en moins, en déposant un clou. Parfois, on a des choses qui sont attachées à nous et qui nous empêchent d'avancer. Et donc, en déposant ce clou, ben, on pensait à cette chose qui nous taraudait à longueur de journée, ou alors en écrivant une lettre, en la cachetant et en la déposant au pied de Jésus. Tout ça devant le Saint-Sacrement. Alors évidemment, il y avait... des prières, il y a eu un partage de la parole. La parole, c'était les Actes des Apôtres du mercredi, donc 17 avril. Et donc, nous avons partagé ce texte, et puis des chants de louanges. Et donc, tout ça nous a éveillés, nous a allégés. Il y avait possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation. Et puis aussi était organisée la prière des frères. Hein, voilà, donc la prière des frères, c'est deux frères qui se mettent à la disposition de la communauté pour entendre les désagréments peut-être de la journée, comment faire pour avancer un peu plus loin, tout ça. Et nous, alors ils déposent ça auprès de leurs frères, de leurs semblables, et on prie pour eux. Voilà, on s'en va et on prie pour eux.
Et on voit encore à travers votre témoignage, Bruno Rigobert, comme nous disaient nos témoins précédents, Marie-Claude Duvet, Monique Flamand, qu'il y a vraiment une organisation minutieuse sur l'ensemble de ces journées et que tout ça est articulé, évidemment, avec une organisation logique, avec des temps forts à partager en équipe missionnaire. Bruno Rigobert, si vous aviez un moment qui vous a marqué plus qu'un autre à retenir peut-être dans cette journée du mercredi, que ce que vous auriez envie de partager là tout de suite à nos auditeurs, Bruno Rigobert?
Moi, d'une part, le recueillement et le partage. Recueillement et partage pour moi, oui. C'est vraiment cette sensation de partage que j'ai retenu dans un recueillement, j'ai envie de dire, parfait, très fort, voilà.
Eh bien, les mots sont forts et en tout cas, c'est vrai que c'est aussi le sens de cette mission, recueillir, partager tous ensemble. Un grand merci Bruno Rigobert d'avoir pris ces quelques minutes avec nous ce soir. Et dans quelques instants, on retrouve un ultime témoin pour parler de cette mission itinérante du côté de l'espace missionnaire Montagne-Val d'Or. Il n'est autre que le père Jean-Pierre Laurent. À très bientôt Bruno Rigobert.
Le 18-19 sur RCF.
Et à 18h presque 52, le père Jean-Pierre Laurent est en ligne avec nous. Jean-Pierre Laurent, bonjour.
Bonsoir, oui.
Merci d'être en direct avec nous dans ce magazine régional, Jean-Pierre Laurent, dans ce magazine local d'ailleurs ce soir, sur les ondes de RCF Reims-Ardennes. C'est vrai qu'on vient d'entendre plusieurs témoins, Marie-Claude Duvet, Monique Flamand, Bruno Rigobert. Chacun de ces membres, ce sont des laïcs qui sont en mission avec l'équipe missionnaire et avec vous qui êtes prêtre dans cet espace missionnaire, Jean-Pierre Laurent. Comment vous avez vécu, vous, cette mission dans votre espace missionnaire Montagne-Val d'Or?
De très belle manière. Ça a été un travail qui a commencé au dernier trimestre de 2023 pour baliser un petit peu cette mission, y réfléchir avec la fraternité missionnaire, avec une trentaine de personnes de l'espace qui s'étaient déplacées, qui ont réfléchi ensemble, qui ont élaboré un peu ce temps de mission en choisissant à la fois les lieux, le thème, ensuite une petite équipe s'est mise en route pour préciser davantage un petit peu les 5 jours qui avaient constitué cette mission.
Et vous, votre rôle à la fois de prêtre, mais aussi avec votre casquette de vicaire général du diocèse de Reims et des Ardennes, père Jean-Pierre Laurent, quel est votre rôle finalement? Est-ce qu'il est d'accompagner l'équipe missionnaire, d'accompagner toutes les personnes qui se mettent à organiser cette mission? Ou est-ce que vous donnez quand même quelque part, j'allais dire entre guillemets, quelques directives à suivre?
Je pense que les choses ont été élaborées avec les uns et les autres. C'est pas non, il n'y avait pas de directive. Il y a des moments où il y avait des choix à faire et donc on les faisait ensemble. Il y a des moments où je me suis impliqué dans plusieurs préparations, mais avec à chaque fois des équipes qui avaient déjà aussi des contacts. Moi, je suis arrivé sur cet espace au mois de septembre, donc il y a des gens qui avaient toute une antériorité, qui pouvaient mieux sentir encore que moi ce qui convenait à tel ou tel lieu.
Et vous le rappeliez à juste titre, père Jean-Pierre Laurent, vous êtes arrivé au mois de septembre dans cet espace missionnaire. Est-ce que cette mission où vous allez dans presque chacune des communes de votre espace missionnaire, où vous allez à la rencontre des personnes, ça vous a permis de rencontrer certains diocésains, certains paroissiens que vous n'aviez pas encore eu l'occasion de rencontrer ou avec lesquels vous n'aviez pas eu l'occasion d'échanger lors de moments privilégiés?
Alors, la mission était sur 2 des 6 paroisses de l'espace. Et on s'est arrêté, si je peux dire, dans 5 ou 6 communes de l'espace, sur les 40 hein, qu'il y a. Donc mais dans cette limite-là, dans ce cadre-là, ça m'a permis effectivement de, à travers les visites entre autres qui ont été faites, où j'ai participé avec d'autres chrétiens, on allait 2 par 2 frapper aux portes ou sonner aux portes, et l'accueil d'ailleurs a été très très majoritairement bienveillant. Et ça a permis de rencontrer des personnes qui, non seulement que je n'avais pas rencontrées, mais qui n'étaient pas nécessairement non plus des participants réguliers de la vie liturgique de l'Église.
Et si vous aviez un moment à ressortir, alors peut-être à travers les rencontres, à travers les moments que vous avez partagés avec l'équipe missionnaire, que sais-je, si vous aviez quelque chose, un souvenir marquant, que vous deviez, si vous deviez retenir une seule chose, Père Jean-Pierre Laurent, je sais que c'est assez difficile avec tout ce que l'on vit lorsque l'on fait une mission itinérante comme celle-ci, mais qu'est-ce que vous retiendriez en premier ?
Peut-être, alors vous m'en demandez une, je vous en dirai deux.
Pas de problème, je viens avec mes questions, vous venez avec vos réponses, comme on dit Jean-Pierre Laurent.
Une belle expérience de fraternité, parce que des membres des six paroisses de l'espace ont participé de différentes manières à cette mission, et c'était important aussi qu'il y ait différentes façons d'y participer. Et puis une expérience de proximité, c'est-à-dire que effectivement le fait d'aller sonner à la porte des personnes, de les rencontrer, de pouvoir, si elles le désiraient, prendre un temps pour échanger avec elles, échanger sur ce qu'elles vivaient, sur ce qui pouvait être pesant pour elles, sur ce qui pouvait être aussi leur centre d'intérêt, d'implication. Ça a été vraiment quelque chose de très beau et de très fort.
Eh bien, en tout cas, un grand merci, Père Jean-Pierre Laurent, d'avoir été avec nous dans ce magazine régional pour revenir sur cette mission itinérante dans l'espace missionnaire Montagne-Val d'Or. Et puis, on vous dit à très bientôt pour partager de nouvelles expériences, parce que, comme vous l'avez dit, finalement, cette mission itinérante sur quelques jours vous a permis d'aller voir qu'une partie de cet espace missionnaire et des paroisses et des communes, mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront menées sur le terrain dans les jours à venir, ou dans les semaines et mois à venir, peut-être plutôt.
Peut-être dans les semaines et mois à venir, parce que, mais effectivement, je pense que c'est une expérience qui, pour moi, est à renouveler, sous la même forme ou sous d'autres formes. Ça sera quelque chose qu'on va voir avec l'équipe pastorale et les différentes personnes qui ont participé à cette mission, mais c'est une expérience à renouveler, sans aucun doute.
Eh bien, en tout cas, un grand merci, Père Jean-Pierre Laurent, d'avoir été avec nous, et puis, on vous dit à très bientôt sur RCF. Très bonne soirée.
À très bientôt, au revoir.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
18h57, toujours avec Jean-Pierre Benoît, qui est resté avec nous depuis l'interview du père Claude Collignon tout à l'heure, et depuis le maire qui vous parlait depuis au Simon.
Le temps a passé très très vite avec vous, parce que il faut quand même saluer la qualité de ce que j'ai entendu, car bien sûr, j'étais là, j'ai entendu tous les témoignages avec le père Collignon, avec Bruno Rugebert et d'autres, parce que c'est vrai que RCF joue là, et nos auditeurs le sentent, le savent, des quatre coins des Ardennes et de la Marne, que là nous sommes en lien avec la vie diocésaine. Merci Alexis pour ce travail vraiment exceptionnel.
Surtout, ce qu'il faut remercier, Jean-Pierre, c'est ceux qui sont sur le terrain, qui font ces missions itinérantes. Et d'ailleurs, puisque l'on parle de suivre ce qu'il se passe sur le terrain, Jean-Pierre, la semaine prochaine, moi je prendrai un petit peu de vacances, je vous laisserai aux manettes, mais vous débrouillerez très bien.
Puis, il va y avoir quelques modifications cette semaine. Vous savez que moi j'aime bien modifier les choses. Mercredi, il n'y aura pas d'émission en direct.
C'est officiel.
C'est officiel. Sur la fin de vie, elle se déroulera, elle est reportée au 29 mai, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Ce sera un mercredi, ça sera toujours en direct entre 18h10 et 19h.
Et on allait annoncer un rendez-vous, Jean-Pierre, vraiment en quelques mots, la semaine prochaine. Donc j'allais venir moi sur la marche des vocations avec les prêtres.
Absolument,
de la
alors
province.
Là, ça va être un peu plus délicat parce qu'il y a le 1er mai entre les deux, mais c'est vrai que c'est un rendez-vous important, une marche des vocations tous les jours, à la fois dans les Ardennes et dans la Marne. On aura l'occasion d'en reparler.
Merci Jean-Pierre pour ces précisions. À 18h58, nous, on regarde du côté du ciel les tendances pour ce mardi. Avec notre nouvelle stagiaire à la rédaction, Alice Dark, dont vous avez entendu la voix en début de magazine. Bonsoir Alice, quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour demain ?
Rebonsoir Alexis, rebonsoir à toutes et à tous. Demain matin, le ciel sera ensoleillé, mais malgré la présence du soleil, il faudra bien se couvrir car les températures ne dépasseront pas les 3 degrés à Reims, Charleville-Mézières, Sedan, Rethel et Vouziers. Le ciel se couvrira dans l'après-midi et laissera place à des éclaircies. Les températures augmenteront et resteront aux alentours des 11 degrés. Une légère brise se fera ressentir tout au long de la journée. Pour votre soirée de ce mardi, le ciel sera très nuageux et les températures diminueront pour un ressenti à 6 degrés. Des pluies éparses seront présentes dans la nuit à Reims et Charleville-Mézières. Demain, nous fêterons les Georges.
Merci Alice pour cette première météo. On vous retrouvera tout au long de la semaine dans 18h10 à 19h dans le magazine local avec nos amis de RCF France-Ardennes. On pense aussi à nos amis de RCF Cœur de Champagne qui nous écoutent notamment en DAB+, sur RCF Champagne-Ardennes. C'était Fabrice Girolet à la mise en onde. Bonne soirée Alice, à demain.
À demain.
Jean-Pierre, on vous dit à demain, bonne soirée.
Oui, à demain Alexis, et bonsoir à tous.
Dans quelques instants, l'information nationale. Merci pour votre fidélité.